Et on commence tout de suite avec le dossier des moutondeuses. Il y a eu, je le disais, un premier projet à Montréal. C'est le projet Biquette à Montréal. 6 brebis, 2 agneaux qui vont vivre dans le parc Pélican, dans le quartier Rosemont, pendant un mois. À Calgary, en Alberta, il y a un projet semblable, beaucoup plus important, 106 chèvres dans un parc. Il y a quelques autres expériences à travers le pays, mais c'est rien comparé à ce qui se passe en France. Et on joint à Brest, en Bretagne, Vincent Bourrel, qui est cofondateur de l'association Entretien Nature et Territoire, qui rassemble les professionnels de ce qu'on appelle là-bas l'éco-pâturage urbain. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, pouvez-vous nous donner d'abord une idée de l'ampleur de ce phénomène-là, de l'éco-pâturage chez vous?
Eh bien, c'est un phénomène qui est né dans les années 70, qui a commencé à se développer de manière importante au début 2000 et qui a vraiment explosé en 2010, 2011, 2012. Et aujourd'hui, on estime, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres exacts, on estime à peu près 500 à 600 programmes d'éco-pâturage en France.
Et ça veut dire, évidemment, il y a de nombreux animaux par programme, donc on imagine des milliers d'animaux.
Bah, probablement des milliers, voilà. On commence à quantifier tout cela, mais bon, ça reste quand même à notre échelle, parce qu'on a beaucoup de communes en France, ça reste quand même quelque chose qui est encore une phase de progression importante, quoi.
J'ai parlé de moutons, un peu de chèvres. Quels sont les animaux qu'on voit le plus souvent dans ces programmes-là?
Ben, nous, ce que l'on appelle l'éco-pâturage, donc c'est vraiment du pâturage urbain dans des endroits milieux fermés, c'est-à-dire clôturés, sur des tailles qui varient, sur des pâtures qui varient de quelques milliers de mètres carrés, on va dire, à 2 ou 3 hectares. Donc c'est en toute logique des petits ruminants, des moutons qu'on va retrouver essentiellement, des chèvres, et puis aussi vers chez nous, des bovins et puis des poneys, des chevaux, des ânes aussi qu'on peut retrouver sur les pâtures urbaines.
Et vous avez dit donc urbain, est-ce qu'on est vraiment surtout dans des grandes villes ou dans des petites villes, des villages?
Ça dépend. Chez nous, les programmes d'éco-pâturage ont surtout lieu dans des communes de plus de 10 000 habitants. De plus en plus dans les métropoles. Voilà, donc en France, sur Toulouse, sur Brest, Le Havre, voilà, des Lille, voilà, des grandes villes qui commencent à s'intéresser, qui ont de fait des grands délaissés urbains et qui commencent à trouver une solution avantageuse à l'éco-pâturage.
Bon, justement, parlons de l'utilité de tout ça. J'ai utilisé l'expression de moutondeuse ou de moutondeur. On imagine donc l'animal qui va entretenir la pelouse, mais ça ne sert pas juste à ça. À quoi ça sert l'éco-pâturage?
Alors, ça ne sert pas juste à ça, mais c'est avant tout une méthode d'entretien, en tout cas nous, hein, on considère ça avant tout comme une méthode d'entretien des espaces. Mais bon, contrairement à la tondeuse, il va y avoir de la valeur ajoutée, ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc, grosse valeur ajoutée environnementale, parce qu'évidemment, il y a peu de bruit, ça va permettre de recréer un peu de biodiversité sauvage, mais aussi domestique, si on utilise des races rustiques, anciennes. Il y a une grosse valeur ajoutée pédagogique et sociale. L'animal médiateur, c'est ce que l'on imagine facilement, l'attractivité de l'animal sur les personnes. Et puis, quand on travaille, nous, les programmes d'éco-pâturage, on essaye de raisonner employabilité des agents, c'est-à-dire on essaye à ce que ce programme soit au moins, ne soit pas plus cher qu'un entretien mécanique et qu'on ait aussi des économies financières pour les collectivités qui s'engagent dans l'éco-pâturage.
Alors, comment ça marche concrètement? C'est les villes qui doivent, dans ces cas-là, créer le programme, le mettre sur pied, le payer?
Oui, enfin, c'est les villes qui y réfléchissent. Donc nous sommes une structure qui accompagnons les collectivités. Donc elles réfléchissent, elles sélectionnent les terrains qu'elles pensent pouvoir entretenir par éco-pâturage. Ensuite, elles mesurent, elles regardent les animaux et les équipements qui vont convenir. Elles regardent l'aspect financier, combien ça va leur coûter à moyen terme. Et puis après, elles recherchent soit un professionnel de l'éco-pâturage, parce qu'il y a de plus en plus de professionnels de l'éco-pâturage, soit même, elles font l'acquisition d'un troupeau qu'elles gèrent en interne.
Et est-ce qu'il faut un berger, donc, employé par la ville, 24 heures sur 24?
Il faut des agents formés à la surveillance des animaux. Voilà, on ne va pas avoir un berger qui va les surveiller toute la journée, mais plutôt des passages réguliers, voilà. Quelques fois par semaine, 3-4 fois par semaine pour surveiller que les animaux vont bien. Donc oui, il faut former un petit peu les agents à ce nouvel outil, si on peut dire ça comme ça.
Est-ce qu'il y a des risques d'agression, par exemple, de passants ou de gens envers les animaux, ou de vol même peut-être?
Pas plus. Il y a, oui. Il peut y avoir, bien sûr, mais peut-être pas forcément plus d'incivilité qu'un autre programme mené par une ville, voilà. Mmh. Donc, effectivement, il y a, il faut prendre ça en compte, il faut mettre les bons équipements pour protéger les animaux, mais bon, voilà, c'est pas du tout infranchissable, et en France, il y a très très peu de programmes qui ont été arrêtés à cause des incivilités.
Et là, vous avez fait référence à la rentabilité de ces programmes-là, l'idée de réduire les coûts, de rendre ça intéressant financièrement. Est-ce que vraiment ça peut être rentable?
Oui, vraiment ça peut être rentable. Oui, vraiment ça peut être rentable si le programme est étudié pour. Voilà. Le but n'est pas forcément de trouver la rentabilité, mais au moins de trouver un programme qui soit à coût égal par rapport à un entretien mécanique. Et comme on va utiliser des animaux, on va avoir plus de valeur ajoutée qu'un entretien mécanique. Mais oui, si on utilise des terrains qui sont difficilement mécanisables, où l'entretien mécanique peut coûter un peu cher, là on peut trouver une vraie rentabilité, un vrai intérêt à réutiliser des animaux là où les hommes ne peuvent pas aller, quoi.
Et est-ce qu'on peut rentabiliser ça aussi, par exemple, avec des produits comme du fromage, ou je faisais référence au méchoui un peu plus tôt? Est-ce qu'effectivement, on peut vendre la viande après et rentabiliser avec ça?
Alors, il peut y avoir un modèle agricole, un modèle économique agricole, mais c'est limité. C'est limité parce qu'il faudrait, pour que ça soit plus rentable pour le mode agricole, il faudrait des grandes surfaces. Et bon, en ville, on n'a pas de grandes surfaces. C'est le premier point limitant. Le deuxième point, c'est que quelquefois, les terrains peuvent être pollués aussi. Mmh. Et si c'est des... Si c'est de la viande qui se retrouve en circuit court, par exemple, ça peut interroger un peu les administrés. Donc, quand on est sur des terrains ou des villes dont on sait que les terrains sont un peu pollués, on peut faire des analyses de sol pour valider la faisabilité.
Et est-ce que, par exemple, les voisins peuvent être un peu réticents? Parce que là, on a parlé d'engrais naturels. Ma foi, ça pue un peu d'engrais naturels. Et puis, je ne sais pas si vous êtes certainement déjà allé dans une bergerie. Quand les moutons sont un peu énervés, c'est très, très bruyant. Alors, est-ce qu'il y a eu des réticences du voisinage?
On commence à le mesurer. C'est ce que nous appelons l'acceptabilité sociale de l'éco-pâturage. Mais oui, enfin, il y a peu de nuisances, finalement, parce que c'est un pâturage avec peu d'animaux, avec ce qu'on appelle un chargement faible. Il y a peu d'animaux à l'hectare. Donc, finalement, il y a peu de nuisances, peu d'insectes, peu de déjections. Mais il peut y avoir quelques nuisances, l'odeur, par exemple. Et tout cela s'arrange facilement avec beaucoup de communication et d'explications avec les riverains qui seront les futurs voisins des animaux. Voilà. Donc avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, finalement, toutes les inquiétudes peuvent s'estomper.
Bon, ben écoutez, on va suivre ça. On est peut-être au début de quelque chose, certainement à Montréal, au Canada. Peut-être qu'un jour, on rattrapera ce qui se fait en France de ce côté-là. Vincent Bourrel, cofondateur de l'association Entretien Nature et Territoire, merci beaucoup de nous avoir fourni ces explications aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci.